RFI et France 24 présentent. Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce Café des Sports chaque semaine. Et nous vous recevons avec plaisir dans notre grand studio, grand et beau studio. Nous sommes le dernier jour de février et surtout, pour certains, c'est le premier jour du carnaval. Et oui, notamment au Brésil, hein, la fête, elle commence toujours beaucoup avant, mais elle va durer surtout 4 jours et elle durera jusqu'à mercredi. Mercredi des cendres, là, on s'arrête, on est sérieux et on se concentre. Nous, on sera sérieux jusqu'à la fin de cette émission, n'est-ce pas Rémi? Bonjour.
Attendez, il faut que je sois sérieux, que j'aimerais tous les lunettes comme un cadet. Je suis en train de voir là le quatrième but de Sorlotte. Là, je suis sérieux.
Bon, Rémi défouraille dès qu'il est à l'antenne. Bonjour.
Bonjour Annie, j'ai respecté le programme. J'attends un petit peu.
Bonjour Benjamin Moukanjo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Ça faisait quelques jours que vous n'étiez pas là, mais vous voyagez.
Une petite semaine.
Hein, vous avez un privilège énorme. On vous autorise à être absent parfois. Et puis Frédéric, c'est pareil, lui est de retour aussi. Bonjour Frédéric.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Est-ce que nos amis sont surtout là parce qu'ils ont été frustrés la semaine dernière?
Oui, le Facebook Live, c'est parti comme tous les vendredis. Adrien Hermel, un petit message. Le Café des Sports de ce vendredi 28 février 2025, qui est d'ailleurs le dernier jour et le dernier vendredi du mois.
Voilà. Je suis né le 29 février, donc je n'ai pas mon anniversaire.
Tous les 4 ans, À propos d'anniversaire, Jaffer Odongo, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je veux une dédicace dans l'un des proverbes de Rémi. Bon, on verra.
Bon, Rémi. En tout cas, nous, on lui souhaite quand même un bon anniversaire, tout simplement, et qu'il le fête bien ce soir après le Café des Sports. Dans un Café des Sports où nous évoquerons la CAN, ce magnifique tournoi continental. Nous, ici, on le dit à RFI depuis si longtemps qu'on le suit. Est-il un tournoi mineur, alors que Mo Salah semble, pour l'instant, bien placé pour décrocher un ballon d'or cette saison? Une polémique grandit autour de ce pharaon qui ne disputerait pas un tournoi majeur. La CAN est-elle ou peut-elle être un tremplin pour le ballon d'or? La Juventus de Turin, cantonnée au championnat italien. Les Bianconeri ont été éliminés de la Coupe d'Italie après la Ligue des Champions. Thiago Motta, l'entraîneur, est montré du doigt. Mais est-il donc le seul responsable? À l'affiche du week-end en Italie, justement, le choc au sommet entre Naples et l'Inter Milan, entre le deuxième et le premier. Et puis, PSG-Lille en France, une rencontre de Ligue 1, mais en pensant évidemment à la Ligue des Champions dans 5 jours à peine pour les Parisiens comme les Lillois. Au générique de cette émission, Salut Diouf m'a aidé à préparer cette émission avec Laurent Salerno. Pour ce qui est des moyens vidéo, il y a du monde aujourd'hui. Yann Bourdelat, Adrien Toureau et Robin Cusneau. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Alors, les propos polémiques ont été tenus au hasard d'un débat sur la Première Ligue, vous savez, après une journée de championnat, sur une chaîne anglaise, mais par l'un des consultants vedettes quand même. Il s'agit de Jamie Carragher, ancien défenseur de Liverpool et des Reds. Ses paroles dénigrant la Coupe d'Afrique des Nations ont été évidemment très mal perçues en Afrique, car Jamie Carragher, dans un débat autour d'un éventuel futur ballon d'or qui pourrait être un joueur de Liverpool, sous-entendait que Mo Salah ne dispute pas de tournoi majeur et qu'en disputant la CAN, il ne pourrait pas remporter de ballon d'or. Alors, des légendes du continent, les grands joueurs du continent, Benjamin, sont évidemment montés au créneau. On en avait parlé dans la semaine lorsqu'Anthony Bafo, l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, mais aussi ancien capitaine du Ghana, avait simplement rembarré son camarade. El Hadji Diouf, l'ancien lui aussi de Liverpool. Alors, vous connaissez le style El Hadj, hein. On vous aime bien, El Hadj, mais c'est vrai que vous n'y êtes pas allé doucement. Donc, je peux citer un peu sa déclaration qui en résume tant. La CAN est la fierté de l'Afrique. Et là, on le comprend. Aujourd'hui, en Afrique, tu prononceras Jamie Carragher et les gens croiront que tu parles d'une marque de ketchup. C'est donc normal que tu manques de respect au plus grand tournoi d'Afrique et à tous ces grands footballeurs africains qui ont apporté leur contribution au football mondial et à tout le continent. Dans la même tonalité, pas avec les mêmes mots, mais on a Obi Mikel, on a JJ Okocha, on a Ahmed Assad aussi. Benjamin Moukandjo, vous qui avez gagné la CAN, on le sait, 2017, en tant que capitaine, est-ce que vous avez gagné un ballon d'or ensuite ?
Non, pas du tout. Et je pense même que je n'avais même pas besoin de gagner le ballon d'or. Quand vous posez la question à George Weah, qui est le seul Africain jusqu'à aujourd'hui
à avoir gagné
le ballon d'or, il vous dit qu'il est prêt à changer son ballon d'or contre une Coupe d'Afrique. Donc quand vous avez un immense joueur comme ça à lui dire, on comprend tout de suite ce que la CAN représente pour nous. Je pense que les propos est irrespectueux. Honnêtement, je pense qu'il y a un gros manque de respect par rapport à ce qu'il a dit à Jamie Carragher. Non seulement il ne respecte pas les footballeurs, mais il ne respecte même pas l'Afrique en général. Vous savez, nous qui avons grandi en Afrique, au Cameroun, qui rêvons d'avoir une carrière sportive, on avait forcément des rêves et des ambitions. Aujourd'hui, quand un gamin qui est au Cameroun, ou même dans n'importe quel coin en Afrique, rêve de gagner ce ballon d'or-là et qu'il entend des propos comme ça en lui disant que si tu joues pour ton pays en Afrique, tu n'as aucune chance de gagner le ballon d'or. Vous vous imaginez le choc qu'il peut avoir? Donc ça veut dire que quelque part, être africain, c'est un désavantage, tout simplement. Et je trouve que le fait aussi de l'avoir dit quelque part, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, il a dit, tout haut ce que beaucoup pensent très bas. Donc on peut le dire aussi aujourd'hui, de dire que c'est sorti pour moi... C'est hors sol ce qu'il est en train de dire. Mais quand on voit les immenses joueurs que l'Afrique a eus, Eto'o, Drogba, Sadio Mané, aujourd'hui Mohamed Salah, et j'en oublie certainement d'autres, qui auraient pu gagner ce ballon d'or-là, à la fin on se dit peut-être c'est parce qu'ils étaient africains qu'ils ne l'ont pas gagné. Mais ils ont montré sur le terrain qu'ils étaient capables de gagner. Mais il n'y a pas de problème, moi je pense qu'eux ils le diront comme moi. On n'a même pas besoin de ce ballon d'or, honnêtement. On est content de défendre les couleurs de notre pays, même si on ne l'a pas gagné. On est content de défendre les couleurs de notre pays. Et ça ne remplacera rien. Ils peuvent rester avec le ballon d'or. S'ils veulent le donner à un Africain parce que ça, là, il l'aurait mérité, ils peuvent le donner. S'ils ne veulent pas donner, je pense que ça n'enlèvera à rien ce que Mohamed Salah représente, ce que tous ces joueurs-là représentent. Ce sont des légendes pour nous, les Africains. Et je pense que même aux yeux du monde, hein, ceux qui sont connectés encore dans le football, ce sont des légendes, tout simplement.
Rémi, est-ce que vous seriez aussi véhément que El Hadj ou que Benjamin? Ou est-ce que finalement, on peut se dire aussi peut-être que ça peut forcer les Africains, la CAF et le continent à montrer encore plus sa compétition? On voit qu'elle est diffusée plus, on voit qu'il y a plus d'écho désormais, qu'on se dispute même les droits de retransmission de la CAN. Et peut-être qu'en la faisant au Maroc prochainement, hein, ça sera à la fin de l'année, est-ce que c'est d'autant plus une envie de se montrer pour les Africains?
Loin du civisme moutonnier, je ne vais pas pleurer. Parce que Benjamin a dit, Carragher a dit juste ce que tout le monde voit, constate. Aujourd'hui, quand on va me parler de la CAN, que c'est une grande compétition, oui, c'est une grande compétition pour nous, pour l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent dont on peut dire aujourd'hui que c'est 30 millions de kilomètres carrés pour 1,536,000,000 d'habitants. Donc, déjà les effectifs et tout, ça apporte beaucoup de choses. On peut dire que l'Afrique, c'est 54 fédérations. Mais lorsque vous regardez ça, vous regardez donc justement le ballon d'or. Vous allez constater que ceux qui ont remporté la CAN n'ont même pas été regardés au niveau du ballon d'or. C'est clair.
Et parfois même, Rémi, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission, même pas ballon d'or africain, comme on l'a parfois nommé.
C'est le Nigérian, Lookman, Lookman, finaliste de la CAN, mais il ne l'a pas gagné.
Et même il a été récompensé au titre de la Ligue Europa.
Avec son triplé en finale contre l'Atalanta. C'est ça qui fait qu'il a...
Mais c'est ça déjà le problème. C'est-à-dire que quand vous voyez des grands joueurs, des personnalités africaines sortir, On oublie que j'ai parlé de 54 fédérations. Quand, par exemple, en 2019, vous regardez le nombre d'Africains journalistes qui votent pour Lionel Messi, qui n'avaient rien gagné, vous n'allez pas accuser les autres. Vous allez d'abord commencer par vous-même, c'est-à-dire que vous avez négligé vos joueurs parce que cette année-là, vous
oui,
avez...
Mais Rémi, là, on parle des propos. Hein. Oui. On ne parle pas de,
Ah oui,
de
mais on parle des propos, mais...
Les gens qui ont été qualifiés, il l'a qualifié de tournoi qui n'était pas un tournoi majeur. Il n'a même pas dit mineur, lui.
Si le tournoi était majeur, si on considérait ça comme un tournoi majeur, je vais donc te dire, bon, je n'ai pas vu, pour l'instant, un joueur africain ayant brillé à la CAN, qui a même été au podium. Le seul, quand vous regardez par exemple Sadio Mané, qui justement finit quatrième, il n'est même pas.
Est-ce qu'il ne méritait pas être au podium?
Il méritait. Il méritait, c'est-à-dire il avait gagné la Ligue des Champions et il avait marqué 27 buts avec Liverpool. Il avait remporté la Super Coupe d'Europe. Mais
donc c'est par rapport à la CAN qui n'a pas été sur le podium.
Voilà.
Et vous trouvez que, est-ce que tu trouves que c'est juste alors?
C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est-à-dire que est-ce que effectivement ces gens-là ne considèrent donc pas le ballon d'or, y compris nous-mêmes, enfin, la CAN, y compris nous, journalistes, parce que je t'ai dit que j'ai regardé le classement des journalistes africains, j'ai vu beaucoup qui mettaient plutôt Lionel Messi au Van Dijk. Bon, aujourd'hui, Van Dijk, comme Xavier Barré aime prononcer. Maintenant, maintenant, je regarde autre chose. Annie, quand vous avez des joueurs africains, ce n'est pas seulement une affaire de la CAN. C'est une affaire même de est-ce que le joueur africain est revalorisé ?
Est respecté.
Est respecté. Mmh. Première des choses, combien de joueurs africains ont gagné la Ligue des Champions ? C'est 30. 30 joueurs africains ont gagné la Ligue des Champions et aucun d'entre eux n'a été sur le podium du Ballon d'Or. C'est lui qui reçoit le Ballon d'Or et c'est lui qui ne s'est jamais qualifié pour la CAN, c'est-à-dire Georges Weah. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, la CAF a fait une erreur et il fallait continuer avec le ballon d'or africain ou alors le revaloriser parce que moi, j'ai toujours dit, il y a un proverbe africain qui dit « Mieux vaut avoir son petit lapin en main que de perdre le temps à poursuivre le lièvre en brousse. »
Rémi Sadio Mané était sur le podium justement en 2022.
Quatrième.
Non, il a été sur troisième, si je ne me trompe pas, de la classification pour les nommer. Troisième.
Il a été quatrième, puis en 2022, il remporte maintenant le Ballon d'Or africain, sans pour autant oublier qu'il remporte aussi la CAN la même année.
Ouais, ouais.
Voilà.
Xavier, alors, les tournois, on sait qu'en même temps, par exemple, pendant très longtemps, on avait tous été surpris d'ailleurs, quand Messi, une année, remporte le Ballon d'Or et on nous dit que c'est parce qu'il a gagné, en tout cas c'était ce qui se disait, la Copa América. Ouais. À laquelle on peut s'intéresser, mais qui est aussi un tournoi très éloigné. On ne parle même pas, on prépare l'émission, on se disait, et la Coupe d'Asie, au fait, est-ce qu'il y a un joueur ? On sait même pas, bon. Mais là, c'est un sport bien mineur sur le continent asiatique, le football. En tout cas, est-ce que ça change ou ça peut changer ?
Il y a une réalité dont j'ai eu l'occasion de parler sur ce plateau, c'est qu'en élargissant les plateaux des phases finales, que ce soit la Confédération africaine, que ce soit la Confédération asiatique, que ce soit l'UEFA, à 24 pays, on a dilué la valeur de ces tournois. Et c'est vrai que les tournois avant, à 12 ou à 16, les phases finales étaient beaucoup plus denses.
Oui, mais Rodri, aujourd'hui, cette année, à 24, gagne...
Oui, mais tout le monde...
La problématique était la même. Quand on avait une CAN à 12 équipes ou à 16 équipes, tous les joueurs africains n'étaient pas plus valorisés.
Tout le monde a dit qu'effectivement, ces compétitions perdaient de leur valeur. Or, quand vous avez en face une première ligue, un analyste de la première ligue comme Jamie Carragher, qui lui estime, et c'est pas faux, que la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde, eh bien, forcément, toutes les autres compétitions autour... Mais les Anglais ont toujours fonctionné de cette façon. Toutes les autres compétitions sont mineures. Il faut rappeler une chose, c'est que jusqu'à 1950, les Anglais ne participent pas à la Coupe du Monde. Ils estiment que le centre du football mondial, c'est leur championnat. Ouais. Ils ne participent pas aux premières éditions de la Coupe du Monde.
Ils ont effectivement une culture club en beaucoup 1960, plus forte que de
nations. 1960, le premier championnat d'Europe des nations, les Anglais n'y participent pas. Ils ne participent pas aux éliminatoires. Ce n'est pas les seuls d'ailleurs. Mais pour eux, le football, c'est d'abord en Angleterre.
Et le club.
Et les clubs. Et donc, ce qu'ils voient de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est que cette année encore. Oui. En janvier-février, ils ont les meilleurs joueurs africains de Chelsea, de Liverpool, d'Everton, de Arsenal, de partout, qui sont absents. Alors qu'eux, ils ont des rendez-vous qu'ils jugent extrêmement importants et très populaires. Le fameux Boxing Day, tous les matchs qui ont lieu à cette époque, les premiers tours de Coupe d'Angleterre, la fameuse FA Cup. Et donc, ils n'ont pas les joueurs africains à ce moment-là. Donc, alors, pour eux, effectivement, qui ne jugent le football qu'au regard de leur histoire et du fait qu'ils sont l'île où il y a le centre du football mondial, et bien tout le reste est mineur.
Alors, ce qui nous a amusé, peut-être, Frédéric, pour terminer sur ce thème, c'est qu'en fait, cette année, il y a une CAN, mais elle sera au mois de décembre. Donc, de toute façon, elle sera après la distribution, ou l'attribution plutôt du Ballon d'Or. Il n'y a pas de Coupe du Monde. Que Salah a disputé, souvenons-nous, en 2018, même s'il était un peu blessé au bras, n'est-ce pas ? Mais il était à la Coupe du Monde. Et puis, il y a un mondial des clubs où le Liverpool va participer. Donc, peut-être qu'en plus...
Salah sera là.
Voilà. Et il se mettra encore plus.
Ou jamais pour Mo Salah, voilà, effectivement. Hein, Liverpool, on l'a vu en phase, la première phase de la Ligue des Champions, ils ont terminé premier. Bon, là, il y a le huitième de finale face au PSG qui se profile. Mais s'ils sont champions d'Angleterre et qu'ils passent l'obstacle PSG et qu'ils vont très loin en Ligue des Champions, il sera très, très bien placé. Et les auditeurs, ils nous rappellent les stats de Mo Salah. Hein, meilleur buteur du championnat, meilleur passeur. Il porte vraiment l'équipe à bout de bras.
Ça fait des années qu'il fait des stats. Hein.
Cette année, il est impressionnant. Non, parce que Liverpool est impressionnant.
Oui, c'est comme Didier Drogba, Samuel Eto'o à leur époque. Hein, sur 5-10 ans, ils le méritent autant que les Messi et Ronaldo.
Samuel Eto'o, il y a quand même une chose, par exemple.
Le Ballon d'Or, c'est en novembre. Oui. Là, on est au mois de février.
Non, bien sûr.
Il y a 7 mois avant le Ballon d'Or.
Mais maintenant, c'est plutôt...
Je ne
dis pas qu'il ne le mérite pas. Je dis juste que le Ballon d'Or, c'est en mois de...
Mais il y a eu un changement quand même. C'est que c'est sur la saison passée. C'est sur la saison. C'est plus sur une année civile.
Bien sûr, c'est sur la saison. Et d'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations ne comptera pas dans l'attribution du prochain Ballon d'Or. Donc la polémique, elle n'a pas tellement lieu d'être.
Bon. Ça nous a
en tout cas,
intéressé.
Il y en a un qui prend cher, là. Hein. C'est Jamie Carragher, hein, sur le Facebook Live. Je vais vous en lire un seul. Mickey Michael Tam. Carragher n'a jamais été un grand défenseur. Détruit, justement, durant sa carrière, par plusieurs joueurs africains, dont Drogba, Okocha, Kanou, Essien, Yaya Touré, etc.
Il a marqué derrière 11 buts contre son propre club.
Il a quand même gagné la Ligue des Champions une fois avec Liverpool. Donc bon,
Samuel Eto'o a gagné la Ligue des Champions en 2006. Samuel Eto'o a gagné la Ligue des Champions en 2008. Samuel Eto'o a gagné la Ligue des Champions en 2010 avec Inter.
Il a soulevé un débat.
Avec toujours meilleur. Bah, il marquait pendant les finales, mais Samuel Eto'o n'est jamais monté sur le podium du Ballon d'Or. Jamais!
Bon, et bien Rémi, Mané est monté sur le podium du Ballon d'Or. Il était deuxième derrière Benzema en 2022 et devant Kevin De Bruyne.
Mais c'est en 2019 qu'il méritait plus le Ballon d'Or. C'est là où pratiquement il était quatrième.
Oui, mais en tout cas, c'est cette année-là qu'il l'était, Rémi. Mm-hmm. Voilà, Salio Diouf a cherché pour nous, n'est-ce pas ? Fallait pas chatouiller un Sénégalais dans cette émission. Allez, on continue dans Radio Foot et dans le Café des Sports de Radio Foot. Ce chant qui donne la chair de poule aux supporters de la Juve dans le stade et parfois au-delà. En tout cas, cette Juve, cette saison, suit un chemin de croix. L'équipe des Bianconeri, qui avait aligné, on s'en souvient, ici dans Radio Foot, pour les avoir suivis, et à la loupe, et grâce notamment à Matteo Ciuffi, elle avait aligné cette Juve 9 Scudetti successifs, vous vous en souvenez, entre 2011 donc et 2020. Eh bien, elle n'y arrive plus. Les victoires fuient et l'équipe autant que les stars fuient l'équipe d'ailleurs. La dernière sans doute à avoir quitté le navire, c'était Cristiano Ronaldo, bien sûr, en 2021. Cette saison, la Juventus. Bon, alors on s'en souvient, maintenant il y a des tournois qu'on arrange un peu, la Supercoupe d'Italie. Elle avait été sortie par le Milan et elle n'a pas été très loin dans ce mini-tournoi. Elle a perdu son barrage récemment de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. Et puis cette semaine, elle a été éliminée de la Coupe d'Italie. Alors il lui reste le championnat et là, il faudra absolument terminer dans les places qualificatives pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Forcément, ça coince, ça grince dans les tribunes et à la direction. Et vous avez dû le voir, le visage de Thiago Motta après l'élimination l'autre jour face à Empoli. Je dirais pas ce qu'il faisait mal, parce qu'on voit que cet entraîneur, il a été désiré, il a été voulu par la direction. Ouais. Et là, en fait, Benjamin, je vous vois être d'accord avec ça, parce que c'est vrai que on a l'impression que c'est lui le seul fautif, mais est-il le seul responsable?
Non.
Il s'est un peu vengé sur ses joueurs dans les propos.
Il peut pas être le seul responsable, pardon. Je pense que c'était important pour lui aussi. C'est le vrai club aussi, je veux dire, de ce niveau où Thiago Motta va entraîner. L'année dernière, avec Bologne, il avait réalisé une saison extraordinaire. Il qualifie Bologne, je crois, en Champions League.
Oui.
Et derrière, logiquement, il va à la Juve. Mais c'est difficile pour lui.
Vous vous souvenez qu'il y avait des bruits aussi, que le PSG le voudrait.
Oui.
On
parce
se souvient
que
du personnage de défenseur central.
Au-delà même du personnage qu'il a été,
6.
Du grand joueur d'ailleurs qu'il a été, c'est surtout ce qu'il a fait à Bologne qui a frappé tout le monde. On a vu son équipe qui joue au football, on a vu des idées qui étaient en place. Aujourd'hui, il peine un peu à les mettre en place parce qu'il y a aussi le fait qu'on arrive dans un club qui est plus huppé que la Juve. Peut-être qu'il n'a pas forcément l'effectif qu'il voulait. On a vu Colomani qui est arrivé là au Mercato pour renforcer un peu l'effectif. Mais voilà, ça ne gagne pas. Mais ça ne perd pas parce qu'ils n'ont perdu qu'un match depuis le début
mais
de la
oui.
saison. Ils
on
font
l'a surnommé
énormément
nul
de nuls.
À un moment parce qu'ils ont fait beaucoup de
nuls. Énormément de nuls.
7-8 nuls en championnat. Quoi.
Forcément, il est dans une position délicate. Mais moi, je pense qu'il faut lui donner du temps.
Bah,
il faut forcément lui donner du temps
Arteta,
parce qu'on voit ses
souvient.
Idées avec Arteta. On a le bel exemple avec Arteta. On voit que Thiago Motta, ce n'est pas le hasard s'il a réussi à Bologne. Il faut forcément du temps pour qu'il puisse mettre ses idées en place. Mais c'est vrai que quand on est à la Juve, on a envie d'aller gagner le Scudetto. Oui. On a envie de terminer premier. On a envie de gagner la Ligue des Champions.
D'être dans la
on a envie de tout gagner. Mais maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la Juve a changé de dimension. Cette Juve, vous l'avez dit tout à l'heure, qui a gagné 9 ou 8 fois le Scudetto, ce n'est plus la même Juve. Les moyens ne sont plus les mêmes. Maintenant, on est obligé de prendre des joueurs, de les faire progresser. La politique, normalement, du club a changé. C'est pour ça qu'il faut un entraîneur qui va s'inscrire dans la durée. Il ne faut pas tout le temps changer.
Xavier, c'est un manque d'argent, en fait, dans ce club. Parce que les stars, quand même, on les cherche dans l'effectif, là.
Oui, alors, moi, je me souviens...
Elles sont parties, ils les ont vendues. Ouais. Et les derniers Italiens, Chiesa...
J'avais eu l'occasion, il y a quelques temps, de parler avec Lapo Elkan, qui est un des fils de la dynastie Agnelli, un des descendants de la dynastie Agnelli. Il me disait, mais attends, nous, à la Juve, pour pouvoir acheter des joueurs, on n'est pas comme les princes arabes ou les oligarques
vendre.
Russes, il faut qu'on vende des Fiat.
Puisqu'il
faut rappeler que c'est le groupe automobile Fiat qui est le propriétaire de la Juventus.
Sauf que Fiat donc, est dissous dans un grand groupe.
Exactement.
Désormais,
donc il y a moins d'argent. Enfin, disons que c'est plus compliqué. Il y a une réalité économique à laquelle est confrontée la Juventus aujourd'hui et à laquelle ne sont pas confrontés le Paris Saint-Germain, Manchester City, les clubs adossés à des états pétroliers notamment. Donc, effectivement, c'est plus compliqué pour eux. Ils doivent être plus inventifs. Et là-dessus se rajoute un changement de philosophie de jeu. Quand vous abandonnez Max Allegri, qui est quand même un peu un symbole d'une certaine tradition du football italien,
pour
passer sur Thiago Motta, qui est vraiment un entraîneur qui a des idées novatrices, eh bien, c'est une révolution pour un club comme la Juventus.
Ils avaient déjà lui donné le temps.
Eh bien, c'est la grande question. Pour le moment, il y a beaucoup de rumeurs sur son éventuelle éviction. Moi, perso, j'y crois pas parce qu'ils ont quand même beaucoup investi au niveau de l'effectif, vous l'avez évoqué. Il y a quand même 10 nouveaux joueurs qui sont arrivés l'été dernier pour justement incarner cette philosophie. C'est pas pour tout balayer au bout de 6 mois ou 7 mois. Donc, moi, j'espère en tout cas sincèrement qu'ils vont le laisser continuer à travailler. La Juventus, de toute façon, est encore dans la course pour le championnat, vous l'avez rappelé. Effectivement, cette élimination de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven a fait tâche. Derrière, l'élimination de la Coupe contre Empoli aussi. Mais bon, il reste encore des matchs pour s'accrocher aux 4 premières places pour être en Ligue des Champions la saison prochaine. Thiago Motta, il a quand même un peu de bouteille. Et puis franchement, le jeu qu'il fait pratiquer à cette Juve, l'autre jour, ils ont battu l'Inter de Milan. C'était un match très spectaculaire. Il y a un moment ou un autre, ça devrait payer.
Rémi, est-ce qu'il faut donner du temps à un entraîneur? Parce que finalement, il y a une transition, on le sent bien depuis quelques temps. Et puis, on parlait de Max Allegri, quand on se souvient de la manière dont il a quitté le club. Finalement, la Juve recommence un peu sur une page blanche. Blanche et noire.
Oui, parce qu'il y a eu quand même Sarri. Et puis, au-delà de ça aussi, il y a eu Pirlo.
Ça a été des échecs.
Ouais. Donc aujourd'hui, quand moi je vois ce que Xavier Barré est en train de dire là, que c'est un bon jeu et tout ça, je ne vois pas ça. Et bien au contraire, je vois une équipe désordonnée qui n'a pas une ligne directrice où tout le monde échange. Parce que je vous prends par exemple un gars comme Gatti. Vous faites de lui le capitaine. Et par la suite, il ne se retrouve même pas dans l'effectif.
vous avez Vlahovic, vous devenez son ennemi. Et avec Cambiasso, c'est-à-dire que vous êtes déjà couteau tiré avec le vestiaire. Sans pour autant oublier que cette Juve-là avait quand même une star naissante qu'on appelait Chiesa. Vous avez dit que Chiesa...
Cristiano Ronaldo.
Voilà, Chiesa... non, mais à l'époque de Cristiano Ronaldo...
Ils l'ont vendu à Liverpool.
Et justement, si tu veux... Oui. Parce qu'il n'a pas vendu. Il a dit qu'il était inutile. C'est ça. C'est-à-dire que c'est lui qui se débarrasse de lui. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que cette Juve-là qui joue avec 4 défenseurs, avec 2 pivots... Ça, c'est du football très ancien parce que finalement, je ne vois pas beaucoup de projections. C'est pour ça d'ailleurs que Lopez et Eindhoven les a broyés. Donc aujourd'hui, moi, je vois que cette Juve-là, c'est vrai qu'elle est sur une pente déclinante. Parce que bien évidemment, quand vous allez prendre la période où ils gagnent de 2012 jusqu'à 9 titres, vous allez voir qu'ils ont commencé avec des écarts de 11 points, puis 9 points, puis 4 points. Et finalement... un point, la dernière fois qu'ils ont été champions. Et c'est pour ça que je disais que, à l'époque, Xavier Barret disait que, oh non, Cristiano Ronaldo est venu pour gagner la Ligue des Champions. Je disais, non, cette Juve-là, elle a plutôt fait l'impossible pour pouvoir gagner quelque chose avec cette équipe-là, parce que cette équipe n'a plus cette bouteille, cette équipe a perdu son âme. La Juve, ça reste juste une vieille dame à la peau.
Frédéric, surtout, on se disait, on a l'impression aussi, on parlait de problèmes de finances, mais le passage de Cristiano Ronaldo a été aussi un peu ravageur pour les finances. Je ne parle pas de Cristiano.
On a dépensé là 200 millions, Annie. Bah oui. Ils ont dépensé 200 millions d'euros.
Justement.
Ça a vidé les caisses. Et puis bon, mais et quand il était là, il y avait l'effet attractif. Tous les week-ends, on avait envie de parler de la Juve parce qu'il y avait Cristiano Ronaldo.
Des maillots, et
les sponsors avaient envie d'être là. En tout cas, bon, les auditeurs, téléspectateurs, ils prennent plutôt quand même la défense de Thiago Motta. Hein. C'est pas le seul fautif, nous dit Robson. Regardez son effectif, vraiment pauvre. On nous parle beaucoup de cet effectif qui manque de qualité. Archéduc, la Juve est en souffrance. Et puis on nous rappelle aussi la série de matchs nuls. 12 matchs nuls, record d'Europe dans les 5 grands championnats.
Oui, le gros
c'est vrai
problème,
que ça paye pas. C'est 12 matchs, aussi, 12 points.
C'est aussi que leur buteur, parce que pour aller chercher Kolo Muani comme sauveur, il faut que tu sois vraiment en détresse.
Le problème, qu'il a fait, le problème,
c'est que le problème, c'est que Vlahovic, en fait, a fait n'importe quoi. Il a une hygiène de vie déplorable. Exemple, il est tout le temps en Java. C'est une notoriété.
Il vient de prendre une balle perdue.
Mais Xavier, t'as pas entraînement demain.
Il est un mauvais exemple pour les plus jeunes, et c'est cette raison pour laquelle Thiago Motta est en conflit avec lui.
On verra pas lui seulement, il y a 4.
Il y en a d'autres, évidemment, parce qu'il y a les défenseurs des copains. Mais c'est vrai que...
sur la corde raide, il faut qu'il... Voilà.
On saura, ils joueront lundi soir et ça sera contre, hélas, Vérone. Et puis en plus, après, il y aura l'Atalanta. Donc attention à cette 4e place qu'il faudra garder sous menace de la Lazio de Rome. Mais ce week-end, c'est en haut de la Serie A que ça va se jouer. Alors, ils sont premiers, c'est l'Inter Milan. Les Nerazzurri qui vont aller jouer lors de la prochaine journée, ça sera samedi soir. Ils vont aller jouer à Naples, mais ils les ont doublés, ces Napolitains. C'est justement eux qu'ils ont doublé lors de la dernière journée. Un point les sépare pour l'instant. Alors que Naples, Xavier, avait commencé la saison tambour battant. Ils avaient beaucoup de points d'avance, un peu comme Liverpool. À un moment, on se disait, ça va être tranquille pour eux. Ça ne l'est pas du tout. Là, ils viennent d'accumuler 3 nuls, une défaite, donc... les voilà derrière. Alors, on connaît l'ambiance et la chaleur de celui qu'on appelait avant le stade San Paolo, qui est maintenant devenu le stade Diego Maradona, encore plus chaud, n'est-ce pas? Est-ce que c'est peut-être pain béni pour Antonio Conte et ses hommes de dire « c'est notre territoire et on va battre l'Inter »
On peut penser, effectivement, qu'Antonio Conte va jouer beaucoup là-dessus, parce que c'est le genre du bonhomme. Il est en train de rater une occasion historique. Moi, j'avoue franchement, et on en avait parlé dans cette émission, qu'en début de saison, après le départ de Naples, l'excellent départ, je me disais, de toute façon, personne ne peut les arrêter, puisqu'ils n'ont que le championnat, ils ne sont pas européens cette saison. Donc, ils peuvent se concentrer sur le championnat, ils ont quand même un effectif très complet, et puis, Conte, il a ce savoir-faire pour monter des opérations commando, il avait réussi à Chelsea lorsqu'il était arrivé en 2016, 2013, ils avaient été tout de suite champions. Il avait réussi aussi à l'Inter de Milan à faire pareil du très bon travail. Donc c'est quelqu'un, à la Juve auparavant, quelqu'un qui sait travailler un peu dans l'urgence. Et là, visiblement, il y a un essoufflement. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y a Kvaratskhelia qui est parti et qui est maintenant au Paris Saint-Germain. C'est quand même un élément important qui est venu.
Plus trop, non, là-bas, il avait...
Oui, mais c'était quand même l'atout offensif numéro un qui est parti. Donc,
Il reste sur 3 nuls et une défaite.
Hein. Ils ont laissé partir, alors que d'habitude, ils ne laissaient jamais partir des attaquants, des joueurs comme ça.
Il avait voulu partir cet été. Enfin, c'était un feuilleton, hein, quand même, cette histoire de Kvaratskhelia.
Ça fait longtemps que ça dure.
Il l'avait gardé, un peu contre son gré, et finalement, il le laisse partir à Noël, enfin, pendant le mercato d'hiver, ce qui se passe jamais à Naples d'habitude. Donc, il y a des éléments qui font que l'équipe est moins performante actuellement et que l'Inter, en revanche, lui, je trouve, est très efficace.
Benjamin, c'est une équipe qui vous tient à cœur, Naples, oui, on le sait. Sûr. C'est une équipe que vous aimez bien. Puis il y a un certain Zambo Anguissa, n'est-ce pas, du côté de Naples.
En plus, malheureusement, il est blessé. Je ne pense pas qu'il va prendre part.
Malheureusement, oui.
Il va pas prendre part à ce match.
Oui,
c'est un joueur important dans l'effectif. Hein. Il va énormément manquer. Bon, voilà, c'est comme Xavier. Hein, moi aussi, je pensais que, en plus, vous discutez avec Zambo régulièrement. J'étais persuadé que cette année, ils allaient nous refaire le coup d'il y a deux ans où ils étaient vraiment partis fort et ils ont tenu. Jusqu'au bout. Mais voilà, c'était
avec
sans compter sur l'Inter aussi.
Alors qu'il jouait en Ligue des Champions à ce moment-là.
Oui, voilà.
Vous avez la Ligue des Champions.
Maintenant, l'Inter aussi en train de faire. Naples était un peu dans la peau du chasseur. De la proie, j'ai envie de dire. Maintenant, ça s'inverse. Mais je suis optimiste. Je pense qu'ils ont la possibilité de gagner ce match et pourquoi pas de repasser devant.
Malgré tout, Rémi, c'est effectivement ce que soulignait Benjamin, la régularité quand même de l'Inter qui est impressionnante, parce que ces dernières saisons, ils sont ou premier ou deuxième, en Ligue des Champions, ils ont été finalistes, donc c'est quand même une équipe très, très bien menée, on a la sensation, avec Simone Inzaghi.
Oui, Simone Inzaghi, moi je trouve que, et de surcroît, il va récupérer un atout offensif, Thuram. Ouais. Sans pourtant oublier qu'il y a déjà Arturo Martinez qui est bel et bien là et qui a déjà planté 15 buts. Donc, lorsque je vois de l'autre côté, Lukaku qui peut-être traîne avec ses 9 buts. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est que dans cette équipe de Napoli, on parlait d'abord de l'organisation défensive. Je ne la vois pas. Parce qu'il faut savoir que lors des 6 dernières sorties, ils ont pratiquement pris des buts à chaque fois. Et derrière, ils ont pris 2 à Como. Alors là, c'est très, très grave lorsque vous avez devant vous des gens qui sont percutants, dont les attaquants, et que Zambo, qui joue souvent un peu l'entonnoir pour essayer de... Et qu'il n'est pas là, moi, j'ai bien peur pour cette équipe qui, comme il faut le dire, n'a pris que 3 points sur 12 lors des dernières rencontres. Et que l'Inter, sur les 4 dernières rencontres, c'est... 2 victoires et 2 nuls.
Ça risque d'être très intéressant parce que ça risque de donner aussi le là de la suite du championnat.
Je pense que c'est la saison qui se joue là.
Peut-être. Oui.
Je pense que l'équipe qui gagne, je suis persuadé qu'elle
possible.
Va aller jusqu'au bout.
Un ascendant psychologique en tout cas. Quelques réactions.
Frédéric. Oumar Barraud nous dit Naples-Inter, c'est un choc, mais sur le papier seulement, vous allez voir, l'Inter va gagner, beaucoup plus armé. Et puis Bafodé, lui, Naples sera champion cette année, il en est persuadé.
Alors, on voulait vous parler d'une autre affiche du week-end, et celle-là, c'est en Ligue 1, notre championnat de France. Bon, ici, c'est pas Paris, enfin presque. En tout cas, nous ne sommes pas loin du Parc des Princes, où demain soir se déroulera un match qui n'est pas banal. Quand on regarde, c'est le hasard du calendrier. Mais il se trouve que les Parisiens reçoivent les Lillois. Or, dans 4 ou 5 jours, ces deux équipes vont jouer un 8e de finale. Les Parisiens reçoivent Liverpool. Les Lillois, qui ont le bénéfice de l'avantage d'avoir été parmi les 8 premiers, vont jouer dans la roue, vont jouer contre les jaunes et noirs de Dortmund. Et ensuite, ils retrouveront leurs adversaires à domicile. En tout cas, c'est vrai que le Paris Saint-Germain est très loin. 18 points les séparent, ces deux clubs. Mais il y a un point commun quand même donc entre ces deux équipes, et c'est cette histoire de Ligue des Champions. Quelle influence, Rémi, ça peut avoir sur le match?
Je crois que sur le match... il y aura déjà une chose, c'est que c'est Lille qui doit faire beaucoup d'efforts parce que le Paris Saint-Germain a un avantage et le Paris Saint-Germain a un effectif,
ils sont tranquilles.
A un effectif très consistant.
Alors que Lille, hein, quatrième, ils veulent le podium.
Ils veulent le podium et surtout ils cherchent encore une participation à la Ligue des Champions. Donc ils vont dépenser beaucoup de plumes. Et au-delà de ça, ce Paris Saint-Germain, il faut quand même se dire que a eu pratiquement à marcher sur ses adversaires tous ces derniers temps. Et bien sûr, quand vous regardez le potentiel offensif, ça fait déjà 101 buts inscrits par le Paris Saint-Germain.
Épouvantail.
Voilà.
Donc, ils ne prennent pas beaucoup aussi. Hein.
Benjamin, est-ce que l'équipe de Bruno Genesio peut être la première à faire chuter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes?
Non.
Et non, mais on pense à Genesio. Genesio qui, cette saison, a battu des grands entraîneurs.
J'adore Genesio.
Ils n'ont pas perdu de la saison encore.
J'aime bien la philosophie de jeu, ce qu'il met en place depuis le début de saison avec Lille. Mais le problème, c'est que c'est le PSG, quoi. C'est une équipe que personne n'a réussi à gagner depuis le début de la saison.
Mais Genesio, il aime bien le scalp des grands entraîneurs, hein, les Guardiola, les Ancelotti, les Simeone.
Cette année, j'y pense pas. Peut-être en Champions League, il fera peut-être un coup, mais avec ce PSG-là, ils sont injouables. Franchement, j'y crois pas. Pourtant, j'aime bien Lille. Hein. Genesio, j'adore ce qu'il fait à Lille.
Non, c'est super. Il a incroyable. Mais même des Benjamin André.
Même lui aussi, il a un bel effectif. Il a un bel effectif, mais quand on compare les deux effectifs, honnêtement, j'y crois pas beaucoup.
Il y a un élément intéressant quand même, c'est que le PSG a joué un match de coupe cette semaine. Alors, c'était contre Saint-Brieuc. Lille ayant été éliminé au tour d'avant par Dunkerque au tir au but, eh bien, du coup, le LOSC a eu toute la semaine pour préparer ce rendez-vous à Paris. Mais bon, c'est vrai qu'au match aller à Lille, à la Decathlon Arena, déjà, le PSG avait gagné 3-1. Oui. Donc, du coup, ça signifie qu'il y a quand même un avantage clair pour le PSG. Et le LOSC, pour accrocher une des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions, il faudra surtout qu'il gagne les autres matchs à venir.
En plus, Lille voulait reporter ce match. A demandé à ne
pas le jouer.
Mardi soir effectivement,
il joue à Dortmund mardi soir.
Il voulait plus préparer le match de Ligue des Champions. Comme Rémi le disait, ils sont un peu... Je ne sais pas comment Genesio va réussir à gérer ça. Parce qu'ils ont la menace de Monaco qui est juste derrière. Ils sont obligés de le jouer ce match-là contre Paris et préparer le mardi ou le mercredi le match de Ligue des Champions.
Il ne faut pas prendre 7-0. Là.
Plus l'analyse de Benjamin que si vous regardez bien au niveau économique, la Ligue des Champions aujourd'hui rapporte beaucoup. Mmh. Et si le LOSC passe Dortmund, et c'est possible effectivement, ils vont en quart de finale.
Contre Paris, hein.
Et il faut sacrifier le match contre
Benjamin,
Paris.
Ce qu'a fait. Qui est ancien joueur. Enfin, est-ce qu'on peut choisir ou est-ce que même on est amené à choisir comme ça, qu'on a en 3 jours 2 matchs décisifs pour le reste de la saison?
Je pense qu'ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir dans la mesure où le championnat, enfin la position des Lille en championnat n'est pas pliée. S'ils perdent contre Paris, ils ont la possibilité de se rattraper. Mais en Ligue des Champions, si vous perdez contre Dortmund, vous êtes éliminé.
Et c'est beaucoup d'argent.
Et c'est beaucoup d'argent que... Voilà.
Le rendez-vous donc avec un parfum d'Europe hein, entre ces deux clubs. Il y a une chose qui nous a intéressé, on va s'y arrêter mais quelques secondes, c'est que le Parc des Princes recevra donc Liverpool au cours de ce 8e de finale. Ça sera mercredi soir et d'ailleurs nous en parlerons évidemment sur RFI. Xavier Barré, il ne devrait pas y avoir beaucoup de supporters des Reds. On en annonce 2000, or on sait que les supporters anglais en général sont très prompts à suivre leurs équipes. En souvenir eh bien, d'une tâche, on va dire, pour le football français et surtout pour les organisateurs de cette fameuse finale du 28 mai 2022, lorsqu'au Stade de France, il y a eu un Real Liverpool et que, alors, du doigt, hein, parce qu'ils avaient vraiment été pointés du doigt par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre des Sports, Oudéa Castéra, on avait accusé les supporters anglais qu'on avait pris tous pour des hooligans, d'avoir mis le bazar autour du stade. Finalement, certains ont été blessés, certains n'ont pas pu rentrer, certains ont été arrêtés, attaqués aussi, des petits vols et tout ça. Et résultat, il y en a beaucoup qui ne veulent pas revenir voir, même au Parc des Princes, en Ligue des Champions.
Alors déjà, il y a très peu de place hein, pour les supporters visiteurs en Ligue des Champions quand ils vont chez l'adversaire. Là, il faut rappeler qu'au Stade de France, il y avait un tiers des places du stade.
Mais parfois, il y en a qui viennent s'ils savent qu'ils n'auront pas de place en tribune. Voyez, on pourrait avoir 10 000 spectateurs qui viennent faire la fête à Paris.
Vu ce qui s'était passé effectivement à Saint-Denis lors de cette finale, il y a beaucoup qui ne veulent plus mettre les pieds à Paris. C'est bien triste, mais entre les insultes auxquelles vous faites, enfin, les déclarations auxquelles vous faites allusion, Annie, et surtout la réalité, beaucoup de supporters qui se retrouvaient volés, blessés, attaqués par des petits malfrats, des petits voleurs. Voilà, donc du coup, ils n'ont pas envie effectivement de revivre ça et de venir. Il y a aussi un autre élément, c'est que la Ligue des Champions, la finale est un samedi soir, donc un week-end où normalement on a le temps de se déplacer. Là, on est sur un jour de semaine où c'est plus compliqué de venir de Liverpool à Paris.
En général, ça n'arrête pas les Anglais, les vrais supporters anglais de clubs.
Oui, mais pour un match de Ligue des Champions en semaine...
Et puis en plus, ils auront le retour à domicile. Bon, en tout cas, c'est une tâche quand même autour de l'événement, on va dire, entre Paris Saint-Germain et Liverpool, même si ce n'était pas le Paris Saint-Germain à ce moment-là qui jouait. Mais c'est vrai que c'était la France qui organisait et avait si mal organisé cette finale de Ligue des Champions. Allez, on termine par la séquence des cartons.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Oulala, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Vos cartons de la semaine sélectionnés par Salut Diouf aujourd'hui. Il n'y a pas de filles qui nous envoient des cartons. Alors les filles, qu'est-ce que vous faites?
Bonjour Radio Foot, ici c'est Elpindo Manani depuis la Chypre du Nord. Alors mon carton il est vert pour Pedri qui nous a sorti un grand match contre l'Atlético de Madrid. Il a joué à un très haut niveau, la preuve encore qu'il est meilleur que Bellingham, n'est-ce pas Rémi?
Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International. Je suis Adrien Herman Minala depuis Yaoundé au Cameroun. J'adresse un carton rouge, comme la couleur du sang à Jamie Carragher pour avoir dit des énormités sur Mo Salah. Vraiment, qui peut se lever et dire que la CAN est une compétition de seconde zone? Carton rouge à Jamie Carragher. Car, comme le dit un proverbe africain, même si ton ennemi c'est le lapin, reconnais que son oreille est longue.
Salut Radio Foot International, c'est Nathan Molunda à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Moi je vais donner le carton vert à la SCAN, pensionné des Nationales 2 françaises, pour avoir éliminé l'avant Guingamp de Ligue 5e en 2e division française. En tout cas, carton vert à la SCAN, merci.
Bonjour Radio Foot, c'est Diallo Yagouba Parawol depuis Kindia en Guinée. Moi et ma fille nous donnons un carton rouge à l'équipe d'Arsenal pour leur manque de constance dans le championnat d'Angleterre. Car pour gagner le championnat d'Angleterre, il faut être constant. C'est cette équipe qui a permis à l'équipe de Manchester City de gagner les 4 derniers championnats consécutifs. Je leur donne un carton rouge pour leur manque de constance. Merci beaucoup.
Radio Foot, Diallo Abdoul, Guinéen vivant aux États-Unis, et puis l'ambassadeur de CEO Girassi sur les réseaux sociaux. Je me suis payé spécialement son maillot pour l'occasion. Je donne un carton vert à l'inarrêtable Serou Kirassi après son quadruple le week-end dernier. Allez, bonne émission, ciao.
Bonjour Radio Foot International, c'est Ndari depuis N'Djamena. Aujourd'hui, j'adresse un carton rouge à la Fédération tchadienne de football qui ne fait que changer de coach comme de prêt-à-porter. Le problème du football tchadien n'est pas dans les coachs, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'ordre structurel. Et comme le dit un proverbe africain, celui qui ne connaît pas danser accuse toujours son pantalon. Et avec tout ce qui se passe, nous les Tchadiens, nous sommes encore loin de pouvoir goûter au bonheur du football. Bon café des sports.
Salut Radio Foot International, je suis Lissois Junior Flesias. Je suis un haïtien, je vis aux États-Unis. Mon carton est rouge pour Thiago Motta, l'entraîneur de la Juventus de Turin, qui a éliminé à la Ligue des Champions, à la Coupe d'Italie et à la Super Coupe d'Italie. Maintenant, dès sa première saison, mais carton rouge à Thiago Motta.
Bonjour, Café des Sports. Moi, c'est Daniel Kreplonging. Je suis Camerounais, supporter numéro 1 du FC Barcelone. Alors, je donne un carton vert à cette équipe-là qui nous donne la joie de vivre. Ils font de beaux jeux, ils gagnent des matchs, ils marquent beaucoup de buts. Carton vert, FC Barcelone, carton vert à Lamine Yamal, ce petit, qui nous donne la joie de vivre chaque week-end. Je lui souhaite beaucoup de bonnes choses, qu'il gagne le Ballon d'Or cette année. Il est le plus jeune joueur du monde actuellement. Et à mon frère Rémi, vraiment, je te souhaite de revenir à la cour des grands. Je te souhaite de revenir, de supporter la meilleure équipe du monde actuellement. Parce que vous serez éliminé en quart de finale, sans doute, par le Paris Saint-Germain. Ça sera vraiment délicat pour vous. Mais je te souhaite de revenir pour qu'ensemble, en fin d'année, nous soyons très contents, nous soyons très joyeux. Carton vert à Xavier Barrette. Oui, carton vert à toi, mon frère. Bien de choses à vous, bye bye.
Bon, ben voilà, il y a même des cartons pour les consultants, pas seulement pour les acteurs du football, mais on était bien d'accord avec l'ensemble de vous, vos cartons. Rémi, allez, je crois que vous commencez un peu en colère.
Rouge. Rouge envers un individu qu'on appelle Valentine Quen. Et le président d'un club qu'on appelle au Cameroun Victoria United. Et alors, cet homme se permet.
Alimbé.
Alimbé. Il se permet tout devant des joueurs. C'est presque l'esclavage des temps modernes. Non seulement il a toujours des problèmes avec les arbitres, où il a accusé, mais cette fois-ci, il a pris en otage 3 joueurs, enfermés pendant 3 jours. Pas de nourriture. La séquestration sous prétexte qu'ils auraient joué au Paris sportif. Mais le pire, c'est que même en janvier, le même individu avait déjà agressé les arbitres. Et il y a 2 ans, le même individu avait pris un câble de batterie pour fouetter un joueur parce qu'il dit que, bon, remets-moi la moitié du salaire parce que vous avez perdu le match. Laissez ce monsieur sévir comme il le fait et que la Fédération camerounaise de football ne l'exclut définitivement pas, que les autorités camerounaises ne prennent pas cela en considération parce que c'est des traitements inhumains et dégradants. Cela veut dire qu'on est en train de salir l'image du football camerounais, comme le dit un proverbe africain. Le berger qui est indulgent envers la panthère n'aime pas ses moutons.
On en avait parlé hein, grâce à Joël Wadem dans les journaux des sports, de l'exemple du gardien notamment qui avait été séquestré. Benjamin, vous êtes plus léger, vert.
Oui, vert. Jérémy, je l'ai senti très énervé. Je vais pas apaiser l'atmosphère. Mon carton, il est vert, il est pour Denkerk et pour Dembaba aujourd'hui qui est le directeur sportif. Denkerk qui a réalisé d'ailleurs un parcours en Coupe de France extraordinaire, qui a éliminé Lille, qui a éliminé Brest, 2 équipes notamment qui ont participé à la Champions League. Ils vont affronter le PSG, c'est vrai que c'est un autre niveau, mais je voulais surtout souligner le travail qu'a fait Dembaba depuis qu'il est arrivé dans cette équipe. On sent une vraie philosophie, on sent un travail d'un professionnel. Ils sont encore en course pour la montée en Ligue 1, ils sont 3e en Ligue 2, avec une forte probabilité qu'ils retrouvent la Ligue 1. En tout cas, carton vert à cette belle équipe qui nous donne tant du plaisir tous les week-ends.
Xavier, vous êtes dans la même veine,
je pense. L'autre quart de finale surprise, c'est exact. Un club qui a formé Zinedine Zidane, qui a formé Johan Mikou, quelques autres encore,
qui était cher à Didier Roustan.
Absolument, et qui n'a plus participé à ce niveau de la Coupe de France depuis 32 ans. 1992, la dernière fois que l'ASCAN est arrivé dans le dernier carré de la Coupe de France. Bravo à ces amateurs, puisqu'ils sont en National 2, 4e division, qui ont éliminé donc Guingamp et qui se qualifient pour le dernier carré, où ils joueront contre Reims. Qui sait s'ils ne vont pas aller jusqu'au bout ?
Non.
Qui sait ? Frédéric ?
Non, on n'avait pas de carton d'auditrice, mais on a un carton vert pour une grande joueuse, Eugénie Le Sommer. Elle a battu la joueuse de l'équipe de France, le record de sélection. Elle a été sélectionnée pour la 199e fois, 35 ans. Elle est entrée en jeu contre l'Islande, hein, France-Islande, victoire des Françaises, 3-2. Le record, c'était 198, égalité avec Sandrine Soubéran. C'est mieux que Hugo Lloris chez les hommes, 145 sélections. Incroyable. Et elle marque toujours des buts, elle en est à 94 buts. En équipe de France, Eugénie Le Sommer.
Et elle n'a pas fini d'accumuler les sélections. Notre carton à Radio Foot, il est rouge et il va tout simplement à Pablo Longoria. Franchement, pour l'ensemble de son œuvre, l'autre jour à Auxerre, dans les couloirs de la Baie des Champs, ses cris de corruption, corrupt, corrupto. Franchement, c'était indigent et même on trouve que 15 matchs de suspension, c'était pas assez. Nous, on en aurait donné plus. Bon, allez. Surtout, n'écoutez pas les gens et respectez. Où que ce soit, respectez les arbitres, les hommes en noir. Merci à tous, merci messieurs, bon week-end et à la semaine prochaine.